comparaison sur cet environnement, hein, toujours. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, quels sont les principaux risques qu'on peut mettre en face pour les entreprises? On a entendu parler à nouveau, on l'avait entendu dans le début de la crise en 2008, de credit crunch, effectivement, que les banques ne prêtent plus aux entreprises. Est-ce ça fait partie des risques qu'on peut effectivement, dans lesquels on peut avoir peur?
Ah, très clairement, on a tous le souvenir de Lehman, hein. Ce qui s'était passé, c'est d'un seul coup aussi, pourquoi les entreprises avaient coupé leur budget informatique, leur budget d'investissement, c'est qu'elles avaient une peur de ne pas avoir les liquidités nécessaires parce que les banques n'avaient pas leur prêté. Alors aujourd'hui, on commence à avoir des retours sur, je dirais, presque anecdotique, mais c'est jamais évident de mesurer ce credit crunch, parce que finalement, c'est cet été, hein, c'est au mois d'août, hein, que ça a vraiment commencé à vraiment affecter les banques. C'est pas immédiat, la répercussion n'est pas immédiate. Donc c'est maintenant qu'on va peut-être avoir des mesures, mais on n'a pas de mesures très fortes aujourd'hui qui montrent qu'il y a un credit crunch. Par contre, il y a un seul élément qui est très positif par rapport à 2008, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont accès au marché. Alors je parle surtout des grandes entreprises, ont accès au marché et peuvent emprunter directement sur les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs ne veulent pas prêter aux banques, mais veulent bien prêter aux entreprises. Ils considèrent même mieux qu'il vaut mieux prêter à une entreprise qu'à un État ou à une banque. Donc on voit que ça s'est un petit peu renversé. Donc ça, pour les grandes entreprises, je ne suis pas très inquiet, parce que je pense qu'aujourd'hui, elles ont des liquidités dans leur bilan, elles n'ont pas d'investissement énorme, hein, elles ont des capacités d'autofinancement. Donc je ne vois pas le même mouvement qu'en 2008. Par contre, où je suis très inquiet, c'est pour le tissu des PME. Naturellement, elles sont très dépendantes des banques. Ce n'est pas possible pour une PME d'aller se financer sur les marchés directement. Et là, vraiment, il y a un risque vraiment de credit crunch. Le meilleur exemple, c'était dans l'aéronautique, où on voit que Airbus commence à tirer le signal de l'alarme en disant mes sous-traitants aujourd'hui risquent d'avoir des retards de livraison parce que les banques ne leur prêtent pas ce qu'il faut pour augmenter leur fonds de roulement. Donc là, on a un vrai risque, mais plus sur le tissu des PME que vraiment des grandes entreprises.
Régis Arnoux, alors vous êtes une grosse PME, vous, mais ces questions de trésorerie, de gestion de la trésorerie et d'investissement, c'est important dans la période?
Oui, c'est fondamental et au niveau de la stratégie, depuis l'origine de la création de CIS, j'ai pris une position de renforcement de la trésorerie des fonds propres en limitant les distributions à 30% des résultats nets. Et heureusement, aujourd'hui, comme c'est signalé, effectivement, les banques sont beaucoup plus frileuses. Je vais investir prochainement au Brésil. On est au Brésil depuis 11 ans déjà, à Macaé, sur l'offshore pétrolier brésilien, où, comme vous le savez, il va y avoir des développements considérables, puisqu'il y a des découvertes en eau profonde, Carioca, Tupi, qui vont mobiliser des centaines de milliards d'investissements. Donc, je vais investir là-bas en achetant un terrain, en construisant des bâtiments, en ayant une plateforme logistique comme on l'a en Algérie, dont on sera propriétaire. Donc, aujourd'hui, pour CIS, le financement, dans des proportions évidemment adéquate, ne pose pas de problème parce que la stratégie d'origine a été celle que j'ai indiquée. Et donc, les banques m'accompagnent pour l'instant sans difficulté. Mais si vous permettez, je rebondis deux secondes sur ce que disait monsieur. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un industriel qui est dans le domaine technique, de fabrication, en particulier de chariots élévateurs, avec une position remarquable. Et on a échangé différents propos, comment ça va, etc. Et lui me dit, il y a 3 ans, j'avais un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros. En 2010, je suis tombé à 200 millions d'euros, pour les raisons que vous exposiez, et j'espère rebondir en 2011 à 300 millions d'euros. Mais c'est hallucinant ce qui se passe. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas une stratégie d'évolution permanente par rapport à une évolution extrêmement rapide de la planète, beaucoup d'entreprises sont vouées à des lendemains très, très inquiétants.
Quoi. Chris Connors, hein, dans le livre qu'effectivement a écrit le PDG de la société, on voit l'analyse que finalement notre environnement, l'environnement dont on vient de parler, est de plus en plus complexe, de plus en plus changeant, et que les entreprises, y compris une société de services informatiques, alors c'est vrai qu'on le voit peut-être à travers certains outils comme les smartphones, comme les évolution de produits de grande consommation. On voit que ça évolue très vite, mais finalement, une entreprise comme la vôtre doit évoluer en permanence pour s'adapter, pour offrir à ses clients de nouveaux services, parce que ça va très très vite.
Oui, justement, en fait, le rôle du DSI dans les grandes entreprises, dans toutes les entreprises, a bien changé dans les années qui viennent de passer. Il y a 5 ou 10 ans, le rôle était plutôt d'assurer que les systèmes, les opérations faisaient tourner l'entreprise d'une manière efficace. Maintenant, c'est complètement différent. Le rôle du DSI est de vraiment faire changer le modèle de l'entreprise avec tout ce qui est le commerce digital, avec les changements de modèle en intégrant l'informatique dans le centre dans l'entreprise, le rôle est très très important et qui évolue tout le temps. Et le rôle d'une entreprise informatique comme HCL, c'est effectivement d'accompagner le DSI dans son challenge de faire l'informatique, de produire de l'informatique, la rentabilité qui n'était pas là.
Donc il faut être capable de réagir et effectivement de changer le modèle de l'entreprise pour gagner du chiffre d'affaires, gagner des parts de marché, parce qu'on disait, les sociétés indiennes représentent 1% du marché de la sous-traitance informatique face au IBM, au Accenture et autres. Donc il y a un potentiel important pour ces sociétés, pour votre société, pour se développer sur ce marché.
Le marché informatique en Inde représente à peu près 50 milliards de dollars chaque année. En fait, ce qu'on voit en général, c'est que le marché en Europe des sociétés indiennes est en croissance d'entre 15 et 25%, même 30%. Alors c'est clair que les compétences qu'on peut trouver en Inde, l'échelle, l'industrialisation, la standardisation, devient de plus en plus centrale dans la gestion d'informatique en Europe.
Alors, ce que vous avez appliqué en Inde, est-ce que vous l'avez appliqué dans le monde entier? C'est-à-dire, est-ce que, là, on peut lire dans ce livre, redéfinir le rôle du PDG, le pouvoir trop important que détient le PDG, c'est des choses étonnantes. Est-ce qu'en Europe, ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a eu un retour positif des Européens, ou on peut parler aussi des États-Unis, sur ce changement de fonctionnement de l'entreprise?
Oui, d'abord, il y a un intérêt énorme dans le livre de M. Nayar. C'était numéro un dans les ventes de management d'Amazon.fr mois de juin. Alors, il y a un intérêt intellectuel. Derrière, en fait, ce qui est important, c'est que nos clients peuvent voir que ça se traduit dans une intensité dans l'engagement qu'on a avec eux aujourd'hui. Et c'est ça ce qui compte pour eux, parce qu'une philosophie de management est intéressante, mais ce qui compte le plus, c'est les résultats qu'ils peuvent voir devant eux.
Régis Arnoux, sur ces cultures dans l'entreprise CIS, on parlait d'une grosse PME, mais il y a aujourd'hui beaucoup de cultures qui sont présentes, puisque vous êtes sur ces différentes zones. Vous avez parlé du Brésil, la Mauritanie, des pays d'Afrique. On arrive à faire une synthèse, une symbiose, une CIS catering comme ça?
Oui, alors j'écoutais attentivement et j'ai intéressé par le livre qui a été écrit par le président de votre groupe. C'est vrai que nous, on est société de service, 10 000 personnes aujourd'hui dans le groupe, et que le phénomène humain est fondamental. Je dirais quand même que l'objectif prioritaire, c'est la satisfaction des clients. Je rappelle rapidement que CIS est une société de service ciblée avec un cœur de métier qui est l'hôtellerie, la restauration, et avec toute une série de services affiliés. Donc la notion de service est fondamentale, la notion humaine est fondamentale, satisfaction client également, comme tout le monde, fondamentale. Alors pour réunir un peu cette collectivité humaine qui appartient à différentes nationalités et origines, chaque année, il y a une convention internationale, et je vais la voir en novembre en France, où là, tous les patrons de pays, toute la direction, mais également des collaborateurs locaux choisis par les patrons de pays, viennent à cette convention qui a pour objectif de recaler les objectifs, de voir le réaliser par rapport à ce qui a été prévu au départ, mais également de fédérer une collectivité humaine qui est de 35 pays différents. Ça, c'est très important.
Donc, essayer de créer ce groupe, quelque part.
Et créer ce groupe international autour d'un pilote qui est en France et en province à Marseille, ce que j'ai voulu personnellement du fait de mes origines.
Alors ça veut dire à la fois du local, effectivement aussi de s'appuyer sur des locaux.
Il y a de l'encadrement occidental, mais parallèlement à ça, à tout niveau, il y a des collaborateurs locaux. Au Brésil, on a 97% de collaborateurs brésiliens à tout niveau. En Algérie, c'est à peu près du même type. Et dans les principaux pays, l'objectif est que les locaux prennent petit à petit la direction des opérations. Ce qui veut dire qu'en stratégie également, il y a des actions beaucoup plus fortes de partenariat avec des entités locales, que ce soit au Kazakhstan, en Russie, en Afrique, au Moyen-Orient. Le partenariat est beaucoup plus essentiel pour le développement que ce qu'il l'était il y a quelques années en arrière.